Jean-Yves Le Naor, bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer à la Foire du Livre à l'occasion de la présentation de votre dernière BD, Le Crétin qui a gagné la guerre froide, paru aux éditions Grand Angle. Alors, comment un spécialiste de la Première Guerre mondiale, vous avez écrit pas mal d'ouvrages et notamment des BD sur la Grande Guerre, comment arrive-t-on à se passionner pour les États-Unis, plus particulièrement sur le mandat de Ronald Reagan, qui, rappelons-le, a prêté serment le 20 janvier 81.
Eh bien, figurez-vous que j'avais déjà fait un documentaire historique pour Arte en 2020 ou 2021 qui s'appelait « Reagan, un sacré président ». Et à cette occasion, j'avais visionné un certain nombre de discours, un certain nombre d'images, et j'avais découvert un personnage, mais drôle, parfois attachant, parfois complètement désarmant, tellement il est... limité intellectuellement, on va dire, et soit être poli. Alors, par exemple, quand il dit que la pollution, c'est la faute des arbres, qui dégagent du gaz carbonique, les bras nous en tombent quand même un peu. À l'époque, tout le monde aussi était un peu surpris. Et évidemment, avec les élections qui arrivaient en 2024, on voyait Trump, la candidature de Trump, qui était de plus en plus inarrêtable, en quelque sorte. Hein. Et donc, je me disais, tiens, il se passe quelque chose là. Comment dire, Trump est, finalement n'est pas une. Il prend sa source quelque part. C'est un héritier. Et j'ai vu en Trump un héritier finalement de Ronald Reagan. Alors je me trompe partiellement peut-être parce que c'est pas tout à fait les mêmes époques. C'est une époque, c'est pas tout à fait le même genre de personnage. C'est pas le même caractère. Mais néanmoins, il y avait quelque chose qui nous rattachait. Un point de départ, c'est le slogan « Make America Great Again ». Tout le monde pense que c'est le slogan de Donald Trump. C'est le slogan de campagne en 1980 de Ronald Reagan.
Oui, il ne parle pas de « beginning » aussi, plus
« A new beginning ».
Ouais.
Oui.
C'est aussi le même principe, de toute façon. Hein, c'est clair.
C'est ça. Alors, quand on dit « rendre sa grandeur à l'Amérique » ou « un nouveau commencement », c'est l'idée que il y avait un déclassement, il y avait une décadence. Et cette décadence, c'était la faute des démocrates, bien sûr, qui ont abaissé le pays, qui ont... C'est vrai qu'il a surfé là-dessus, Reagan, puisque quand il y a la campagne en 1980, il y a eu le choc pétrolier le de 79, il y a eu le renchérissement donc des coûts de production, l'inflation qui est très élevée, plus de 10%, et les Américains, vous savez comment ils votent, c'est toujours la même chose qu'aujourd'hui. Hein, c'est est-ce que vous viviez mieux il y a 4 ans qu'aujourd'hui? Et là, c'était la même chose avec le Covid. Il y a eu des dépenses publiques, hein, le quoi qu'il en coûte en quelque sorte, et ce qui fait qu'il y a eu de l'inflation aux États-Unis, et les Américains ont sanctionné Joe Biden aussi pour la question économique.
Est-ce que vous aviez vu déjà, au moment où vous avez préparé, ce parallélisme entre Reagan et Trump? Est-ce que c'était évident avec le regard de finalement connaisseur du sujet?
Alors, je n'avais pas vu à quel point ce serait lié, mais j'avais vu, en tout cas, dans Reagan, celui qui a amorcé le tournant économique. On appelait ça même le Reaganomics, c'est-à-dire le libéralisme, le néolibéralisme avec réduction des dépenses publiques, réduction massive des dépenses publiques, avec réduction des impôts des riches. On passe quand même de 75% le taux d'imposition le plus élevé à 35%. Donc c'est l'idée du ruissellement. Il vaut mieux laisser l'argent aux riches et l'argent au marché plutôt que l'État n'intervienne finalement. Faut que l'État se contente simplement du secteur régalien, police, justice, armée. Et on voit bien que ça, c'est Reagan. C'est un tournant parce qu'auparavant, depuis les années 30, depuis Roosevelt jusqu'à Reagan, il y avait un consensus sur le rooseveltisme ou le néo-keynésianisme en quelque sorte. Hein. L'intervention de l'État et des politiques d'État, ça nécessitait des impôts évidemment élevés. Et là, on va casser complètement tout ça avec Reagan. La première à amorcer ce tournant, c'est Margaret Thatcher en 79. Vous voyez, on est dans la même époque, puis on a Reagan. Et Trump n'est qu'un continuateur. Mais c'est un continuateur qui va très loin, puisqu'on est, c'est un véritable libertarien. Il va casser l'État. Il veut casser l'État. Vous voyez, on met les scientifiques au chômage, on réduit les universités, même les juges, etc. Enfin, c'est, on veut conserver juste, puis il y a cette méfiance envers l'État profond. Ah, il y a une sorte d'idées de complot de l'État contre les libertés.
Oui, complotisme, c'est très fort. C'est quand même très,
très fort. Ouais. C'était pas aussi fort dans Reagan. Mais Reagan est donc celui qui fait ce tournant et Trump est dans la continuité.
Alors, Reagan savait communiquer. Comme oui, Trump. incroyable quand même. Est-ce que c'est lui-même, puisqu'il était quand même acteur, il avait aussi ses agents et les studios qui étaient là, etc. Est-ce qu'il avait déjà ça en soi, ou est-ce que c'est tout son entourage qui a su vendre son image?
Les deux, non, en général. Mais je pense qu'il y a d'abord le caractère propre de Reagan. On sait qu'il collectionnait les petites blagues. Il a dans ses archives, la Reagan Library, il y a des boîtes entières de d'histoires drôles, parce qu'il aimait raconter des histoires. Et j'en ai raconté quelques-unes dans la bande dessinée, Jean-Luc Effigieux. Il aimait raconter l'histoire parce que quand vous racontez une histoire drôle, vous faites rire votre auditoire, et à partir du moment où il a ri, il est gagné. Il est war, il est conquis. Et même quand il y a un débat avec des démocrates, quand il y a le débat à la télévision avec, que ce soit Carter en 80 ou que ce soit Walter Mondale en 84, s'il arrive à faire rire, et il fait rire même son adversaire, bon ben ça y est, c'est gagné. Donc là, il y a vraiment son caractère depuis les années 60. Oui, je pense qu'il est toujours resté acteur. Il est devenu gouverneur de Californie.
Vous le dites, Ferdinand, en tout cas, je ne suis pas un menteur, je suis un acteur.
Oui, c'est là toute la différence en tête, le point commun aussi. Alors, l'acteur, il lit aussi des textes rédigés par d'autres, et donc là, c'est là...
Il n'a pas la responsabilité.
Oui, et c'est là aussi qu'on voit le rôle des conseillers de Reagan, qui ont finalement bien compris sa personnalité et qui lui ont fait aussi des textes à sa mesure.
Les blagues en question, c'était des fiches, c'était des cahiers.
C'est des fiches. Il les recopiait le soir. On lui en envoyait.
Oui, parce qu'il paraît que, comme vous dites, il a une armée d'auteurs. Là.
Il a des auteurs, mais on lui en envoyait aussi par lettre. Oui, oui. Il les recopiait. Il fallait les apprendre aussi, et surtout les sujets, ce qui fait qu'un journaliste lui posait une question et commençait par une petite blague, où il arrivait à la petite blague. Et voilà. Et pour les Américains, c'était révolutionnaire. Parce qu'on n'avait pas ça. Carter, c'était l'homme qui connaissait ses dossiers, qui citait des chiffres, qui citait des faits. C'était un vrai pasteur. Il rigolait pas, Carter, hein. Et je dirais même que tous les présidents avant Reagan étaient des bûcheurs, des travailleurs. Reagan dit, on me fait travailler comme un écolier, moi j'en ai assez.
Qu'est-ce qu'il dit à son écolier?
Oui, ça, c'est une vraie phase, c'est pas moi qui l'ai inventé. Quand j'ai les vrais textes, je les mets. Reagan est assez...
C'est ça qui est magnifique dans votre BD, c'est vrai qu'il y a plein de références là-bas, et parfois on se dit, c'est pas possible, il a inventé, mais non, Jean-Yves les a vraiment trouvés. Là.
Si vous vérifiez, il y a des faits, effectivement, on m'a dit, non, c'est pas possible, ça, cette scène, c'est pas possible. Allez vérifier, vous verrez. Vous verrez que là, j'ai mis en scène, mais je n'ai rien inventé.
Par contre, il devait quand même avoir une sacrée mémoire, là, non?
Alors, c'est un peu triste pour quelqu'un qui a fini avec Alzheimer.
Ouais.
Il fallait faire travailler sa mémoire sans aucun doute, mais on voit bien, surtout dans le deuxième mandat, qu'il a du mal à tenir une conversation longue. Voilà, et très vite, il décroche, ce qui fait que dans le deuxième mandat, les rencontres, c'est 15, 20, 30 minutes.
Ah oui.
Ouais. Et dès qu'on sort du sujet qu'il a préparé, il est perdu. Il y a une réunion internationale, par exemple, où on sort du sujet préparé et là, il se tourne vers... On voit les images où il se tourne vers son secrétaire d'État aux affaires étrangères, Schultz, à l'époque, tu vois. Et il arrive tout de suite parce qu'il le regarde comme ça en disant... Dans le regard, ça signifie... Oui, panique, je sais pas quoi répondre. Ah, je ne sais rien.
En fait, dans votre ouvrage, et il y a pas mal, comme on vient de le dire, de références, vous avez fait énormément de recherches en amont.
Ben oui, parce que déjà j'avais
un tri énorme quand même. Vous avez
ça. Fait. Oui. Bien sûr, pour écrire un scénario d'histoire, il faut toujours de BD d'histoire. Il faut toujours travailler en amont. Donc, il faut lire des biographies, des autobiographies, des biographies. Mais il faut aussi voir les images. Et comme j'avais travaillé déjà sur Adopter, sur Arte, j'avais déjà vu pas mal d'images, des heures et des heures de rush, et donc j'avais la matière, parce que c'est important de voir les images. Si vous restez dans le papier, ça reste plat, en quelque sorte. Vous pouvez vous inventer la scène à partir des dialogues, bien sûr, vous pouvez vous faire un film, mais si vous voyez la scène, ça vous nourrit aussi. Il faut voir les deux, parce qu'aujourd'hui on a la chance. Reagan, c'est quand même une époque où tout était filmé, et donc on a la chance de très souvent de le voir évoluer dans la Maison Blanche ou dans les réunions internationales. Et donc ce qui fait que ça c'est surtout pour le dessinateur où ça va servir, être obligé de pénurie, oui.
Et quoi, voilà. Dans justement ces éléments que vous rappelez, on a Ben Laden quand même,
oui,
qui est quand même et qui finalement avait été sponsorisé entre guillemets par les États-Unis. Quand même, c'est un point choc dans votre récit qui est quand même admirable de répéter parfois, qui pour rafraîchir la mémoire quand même.
Ben, c'est-à-dire que les États-Unis mènent une politique à court terme. Ce qu'ils veulent, c'est faire perdre les Soviétiques en Afghanistan. Donc, pour faire perdre les Soviétiques en Afghanistan, bah, il faut armer les rebelles. Bon, vous avez des rebelles qui sont islamistes, peu importe, c'est pas le problème. L'important, c'est qu'ils sont les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc, on va les financer par la CIA, les services secrets pakistanais, les services secrets saoudiens, et c'est là que Ben Laden intervient. Alors, il fait qu'une plus courte apparition, mais c'est un petit clin d'œil qui montre que, bah oui, cette politique à courte vue, bah, elle se retournera un jour contre les Américains.
Clin d'œil aussi, Trump qui apparaît. Oui. Il y a une case, oui.
Il apparaît, ça devient justement un mania de l'immobilier. Il a fait la couverture de Time hein, dans les années 80. Il fait fortune dans l'immobilier et il fait partie des donateurs dans la seconde campagne de Reagan en 84. Donc, il sera invité à la Maison Blanche. On a des images où il se serre la main, etc. Et il adhère au Parti Républicain. Il adhère vers 87, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Mais Trump a toujours été du côté du manche. Hein. Il a adhéré au Parti Républicain. Puis après, dans les années 90, il a adhéré au Parti Démocrate parce que c'était à l'époque de Clinton. Et puis il a fini par quitter le Parti démocrate et il a rejoint le Parti républicain dans les années 2000. Oui, il est toujours il faut être toujours du côté du pouvoir parce que c'est là que vous avez votre intérêt, hein, les allègements de charges, etc., etc.
L'espace a toujours été une préoccupation des présidents finalement. Non, parler et, bon, et maintenant on voit en convient avec la course pour Mars.
Et ben là, point commun que je n'avais pas vu venir dans la bande dessinée, Trump a parlé d'un bouclier spatial sur les États-Unis. Il reprend tout simplement le projet Guerre des Étoiles de Ronald Reagan, de projet 83-84. C'est 83. Je n'avais pas vu venir ce point commun. On pensait que c'était tombé dans l'oubli. Bon, mais il le ressuscite. N'oublions pas qu'en 83, Reagan a imposé ce projet contre ses conseillers, contre les militaires qui n'en voulaient pas, parce qu'il disait on n'a pas la technologie, on l'aura peut-être jamais, en tout cas on l'aura pas, et regardez, on l'a toujours pas aujourd'hui, hein, en 83 on l'avait pas, 40 ans après on l'a toujours pas. Et donc ils se disent, ça va, on nous tire des milliards, on pourrait peut-être les mettre ailleurs, etc. Mais non, Reagan y tenait comme à son joujou, il a fini par l'abandonner contre la fin de la guerre froide.
Vous dites Reagan n'est plus Reaganien, vous pouvez expliquer?
Ah, c'est que Reagan était à l'extrême droite du Parti républicain. C'était un faucon. C'était l'homme qui relance la guerre froide. Il a relancé les dépenses d'armement, mais terriblement, pour pousser l'URSS à faire de même et à l'asphyxier, finalement, dans cette course aux armements. Et lui, cet homme qui est un faucon, qui pousse presque le monde à la guerre, hein. On n'a pas été loin. C'est l'homme qui accepte la main tendue de Gorbatchev. Et puis c'est pas seulement une main tendue. Il pense que, avant de discuter le fond, il faut d'abord créer des relations de confiance. Donc il le prend dans les bras et il discute seul à seul. Il lui raconte des blagues. Le pauvre Gorbatchev n'en peut plus.
C'est vrai qu'il y a de belles séquences quand même. Vous avez développé ce chapitre-là. Hein.
Oh oui, mais il y a une scène alors. Pas au début, mais c'est à la fin quand ils se connaissent bien où ils tentent même de le convertir, de lui dire regardez, on n'est pas là par hasard. Si une table est servie, c'est qu'il y a un cuisinier derrière. Il y a un cuisinier qui a cuisiné. Donc, ben, fatalement, il y a un Dieu qui veut que... Il y a un plan pour qu'on se rencontre. Chez Reagan, il y avait cette idée qu'il était élu. D'une certaine façon, c'était un croyant. Alors, Trump est un méfiant. Mais lui aussi, toute la culture protestante, il a été... Il y a un attentat, il a évité la mort. Donc, lui aussi, d'une certaine façon, il est élu, oui. Il n'est pas là par hasard, il y a un plan. Voilà. Reagan n'est plus réganien, donc à partir du moment où il se réconcilie avec l'URSS, il le dit à Gorbatchev, quand on se serre la main, les durs de votre camp et les durs de mon camp, ben, doivent en ce moment être en train de saigner, hein, voilà ce qu'il dit. Donc, vous voyez, ce faucon, eh ben, est devenu colombe. Il était capable de changer.
Est-ce qu'il était si finéant, vous me montrez? Parce que parfois, je me demande si vous abusez pas, et vous allez peut-être un peu trop loin, non?
C'est de la BD, donc c'est un personnage cartoonesque. Alors On a forcé le fait. Mais d'abord, un, c'est une personne qui est quand même âgée. C'était le plus vieux président des États-Unis jusque-là. Alors, le plus vieux président, depuis, il y a eu Biden et même Trump. Hein.
Il est âgé.
C'était 69 ans, si je me trompe pas.
Reagan, 69. Trump, c'est 70.
Voilà. Mm. Donc, il a été dépassé, mais pas trop tôt le matin. Oh là là, avant... Même le jour de son investiture.
C'est vrai qu'on peut se demander quand on vous lit, mais c'est un pastiche, c'est pas possible.
Que... Non, je le jure, le jour de son investiture, elle est quand même à 11h. À 9h, il est toujours au lit et on vient le réveiller parce que on se dit, bah mince, il va jamais se lever. Et à 9h, il dit, bah quoi, dans 2 heures, j'ai encore le temps. Je vous assure, le jour d'investiture, il n'est pas levé à 9h. Et ensuite, c'est pareil, on lui mettra jamais de rendez-vous avant 10h. Le soir, pas de rendez-vous après 17h. Il regarde les vieux films avec lui. Hein. Il y a beaucoup d'orgueil avec sa femme, il regarde les vieux films. Et le week-end, ils aiment bien revenir dans leur ranch. Ah, pas tout le temps, parce que c'est la Californie, c'est loin, mais enfin, ils aiment bien revenir dans le ranch. Vous savez, c'est pas le seul. George W. Bush avait passé avant le 11 septembre 2001 plus de temps dans son ranch au Texas à la Maison Blanche, et Trump pendant son premier mandat, il était tout le temps sur les cours de golf, tout le temps en train de faire du golf.
Expliquez quand même le final, le petit clin d'œil quand même à une actualité plus que chaude.
Alors pour ceux effectivement qui n'auraient pas vu le parallèle, on a terminé par une.
Faut bien insister.
Oui, pour bien insister, c'est signé comme ça. On a un petit dessin sur Trump. On a repris la couverture et on a mis Trump à la place de Reagan. Et alors le titre, c'est le crétin qui a gagné la guerre froide pour Reagan. Et le mot crétin ne m'appartient pas. C'est une citation de Nixon. Hein, sur Reagan. Pour Trump, je pense que c'est un crétin d'un autre genre. Lui aussi, il a un plan. Donc, est-ce qu'on peut parler de crétin? En tout cas, un autre genre, c'est la violence, c'est le rapport de force, c'est l'unilatéralisme, et c'est un monde où il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et donc, c'est à la fois l'héritier de Reagan et en même temps, c'est autre chose.
J'arrive encore, merci. Donc, rappel, le crétin qui a gagné la guerre froide, paru aux éditions Grand Angle. Merci.
Merci à vous.